France Bleu Creuse, le dossier du jour, Josiane Perron.
Bonjour à toutes et à tous. Chauffage au bois, regroupement de terres agricoles, construction de routes, ça chauffe pour les arbres. Comment gérer les abattages au mieux, prévoir les replantations? Nous en parlons ce matin avec Christian Libaud, Guy Nature, Hans Kressler, technicien civicole indépendant. Comme chaque jour, vous pouvez poser vos questions, nous apporter vos commentaires au 05 55 52 37 38.
Le dossier du jour avec Granit et Marbre Mourier. Plan de cuisine et salle de bain, fabricant depuis 1860. Exposition à la Souterraine et Limoges et sur granit-marbre-mourier.fr.
Bonjour Christian, bonjour Hans.
Bonjour.
Bienvenue sur France Bleu Creuse. Nous allons prendre le temps de faire un petit peu plus connaissance avec vous. Christian Libaud, Guide Nature, vous nous rejoignez chaque vendredi sur cette antenne à 10h50. Mais ancien bûcheron, c'est ça ? Approchez-vous bien de votre micro.
Et forestier, avec Hans d'ailleurs, dans les années 80, on a pas mal bûcheronné ensemble. Et puis après, on a évolué un peu et entre ces deux traditions forestières, son papa était déjà forestier. Donc voilà, maintenant j'ai un peu changé de boulot puisque je suis animateur pour le Pays Ouest Creuse.
En ce qui vous concerne, technicien civicole indépendant, c'est ça ?
Oui, c'est ça. C'est gestionnaire, conseiller forestier. Voilà, je conseille des propriétaires de parcelles boisées pour mener leur bois pour le mieux des forêts et puis aussi pour gagner un peu d'argent.
Mm-hmm.
Voilà,
accessoirement.
Accessoirement, ce qui ne gâche rien. On dit que on revient beaucoup vers les chauffages au bois, que le bois on en consomme beaucoup, qu'il y a beaucoup d'arbres d'abattus, peut-être pas toujours à bon escient d'ailleurs. Qu'en pensez-vous de tout ça ?
Oui, je suis content dans un sens qu'on utilise du bois. Le bois a un bilan écologique très positif. Comparé à des matériaux de substitution qui sont dans la construction, le béton, l'acier, l'aluminium, les plastiques, etc., et dans le chauffage, le fioul, le gaz, etc., l'électrique. Donc, je suis plutôt content, mais je regrette la façon d'exploiter les bois qui est un peu généralisé par vaste coupe rase, ce que je trouve dommageable pour le paysage, pour la forêt, dommageable aussi pour les propriétaires en fait. Ils ont tort certainement.
Ces coupes rases comme ça, c'est bien sûr dans le but de vendre ce bois ?
Oui, c'est le but de le vendre, mais un arbre que je coupe aujourd'hui, je ne peux pas espérer qu'il soit à maturité dans 50 ans.
Est-ce qu'ils envisagent à ce moment-là de replanter ou...
Oui, alors en forêt, on ne plante pas systématiquement toutes les forêts. On plante une forêt, on est obligé de planter une forêt quand il y a rien, ou quand les essences, c'est-à-dire les espèces d'arbres, ne conviennent pas. Mais a priori, une forêt n'a pas besoin d'être plantée. Une forêt se régénère naturellement. Et le rôle du forestier, c'est d'orienter un peu cette régénération naturelle, mais pas obligatoirement de replanter.
Christian Libaud de la forêt, vous la connaissez bien. Je suppose que vous partagez le ressenti de Hans.
Oui, tout à fait. C'est un sujet très polémique. Donc, quand vous nous avez invité à venir, j'ai dit oh là là.
Qu'on parle de tout le matin.
Oui. Mais c'est vrai qu'en ce moment, la gestion de la forêt est polémique, comme la gestion de l'agriculture d'ailleurs. Il y a un système industriel qui s'instaure, comme pour le grand centre d'engraissement qui est en cours là.
La polémique, elle naît de quoi précisément, Christian ?
bah, de ces grandes coupes rases qui marquent énormément le paysage, hein, et qui sont pas obligatoires. On peut gérer différemment, on peut faire de la futaie jardinée, et où le, au lieu d'avoir une grosse entrée d'argent, pardon, une grosse entrée d'argent d'un coup, on va avoir des revenus réguliers. Et ça, Hans l'expliquera plus en détail, c'est son métier à l'heure actuelle. Et puis aussi, on n'a pas de tradition forestière en Limousin, puisqu'il n'y avait pas de forêt. On a des photos des années 20-30, hein, la construction des barrages, où là, on se rend compte que tout ça, c'est, toutes ces collines, c'était de la lande. Ce qu'on essaie de restaurer, d'ailleurs, au niveau du Conservatoire des espaces naturels, de ce paysage emblématique du Limousin. Et puis, il y a eu l'exode rural. Et les propriétaires, l'État, il y avait le Fonds forestier national qui offrait les plans d'arbres pour qu'on plante ces grandes forêts résineuses dans les années 50. Beaucoup, hein, il y a eu énormément de replantations.
50 jusqu'en 90 à peu près.
Ouais. Ça a duré très longtemps. Et sur le plateau, c'était un grand désert de landes, et on s'est retrouvé avec ces immenses forêts d'épicéas en grande majorité dans les années 50, où il est sorti des tonnes et des tonnes de cèpes. Voilà, ça aussi, ça compte dans l'histoire. Et c'est cette tradition forestière qui nous manque. C'est un peu dommageable aussi. Et d'ailleurs, quand on a commencé à bûcheronner, donc début des années 80, c'était les grandes premières éclaircies. On commençait à se rendre compte que ces plantations, on les avait faites, et au bout d'un moment, il faut les éclaircir, comme les rangs de carottes, sinon on n'a que des petites carottes. Donc ça a été un gros travail à l'époque. Il n'y avait pas de machine à abattre aussi, donc tout se faisait à la main. Et c'est aussi ce qui me choque aussi dans le paysage, c'est ces immenses pistes forestières qui sont nécessaires, parce que la coupe va se vendre mieux si elle est accessible. Alors que nous, à certaines périodes, fallait marcher 10 minutes, un quart d'heure, voire, pour atteindre notre lieu de travail avec les tronçonneuses, les bidons, etc. Donc il y a un certain confort des ouvriers aussi. Donc voilà, il faut penser qu'on n'est pas habitué à gérer la forêt en Limousin, contrairement aux gens dans les Vosges, etc., les grands massifs anciens, quoi. Et donc il y a des réactions un peu...
Michel Miraisin, nous allons dire, pour rester diplomate. Et vous, qu'en pensez-vous? 05 55 52 37 38. Une question à poser à nos invités, un commentaire à partager. C'est maintenant. On vous souhaite une belle matinée.
Yeah.
Roger Glover, Love is All.
France Bleu Creuse, le dossier du jour.
Consacré au bois, aux arbres, aux coupes, aux éventuelles replantations, comment c'est géré tout ça? Deux invités pour échanger avec vous, Christian Liebaud et Hans Kressler. Et comme chaque matin, c'est la priorité à vos appels. Bonjour Jean.
Oui, rebonjour, oui. Donc, je m'insurgeais un peu contre cet abattage intempestif et on a planté, au lieu de 35 peupliers, on a planté 11 arbres qui n'ont pas tellement leur place, si vous voulez, ici. Parce qu'ici, c'est le peuplier autour de Courtille. Ça absorbe beaucoup l'humidité et c'est l'arbre roi. De même, on a abattu près du restaurant, qui est très connu d'ailleurs, des Guérétois, on a abattu un chêne sous prétexte qu'il n'était pas en très bonne forme. Mais un chêne, ça peut vivre 500 ans. Et on verra pas, si vous voulez, l'été prochain, moi je crains qu'il n'y ait pas d'ombre. C'est une certitude même, pour ceux qui vont amener leurs petits-enfants comme moi, puisque je suis grand-père de 3 petites filles, donc qui vont amener baigner leurs enfants, ils aimaient bien se mettre à l'ombre de ces peupliers. Voilà.
Alors Hans, qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné... tout de suite va être évoqué les questions de sécurité, notamment au bord des routes. Qu'est-ce qui va faire qu'à un moment donné, on dit « bon, mais cet arbre-là, faut le tomber ».
Je pense qu'il y a eu des erreurs, là, comme disait Madame Gard.
Alors, on va laisser Hans apporter une réponse.
Bien. Moi, je m'occupe plutôt de gestion forestière. C'est vrai que je suis concerné aussi par les arbres en bordure de route, par exemple. Certains prétendent que les arbres en bordure de route sont dangereux. Dangereux parce que, je ne sais pas, d'un seul coup, ils se mettent au milieu de la route et la voiture doit freiner. Non, c'est pas ça. C'est que les voitures quittent la route par un accident, par un incident, par une glissade et se heurtent à un arbre. À d'autres endroits, on plante des arbres au bord des routes pour ombrager les routes. On ne peut pas dire que ce sont les arbres qui sont dangereux. C'est bien les voitures qui sont dangereuses. Qu'est-ce qui fait choisir l'abattage d'un arbre? En forêt, ce n'est pas a priori parce que il est en train de mourir. Au contraire, quand nous faisons des éclaircies en forêt, nous réservons un certain nombre d'arbres qui sont ce qu'on appelle sénescents. Sénescents, c'est-à-dire ils sont très âgés. Hein, et on va les laisser pour pouvoir abriter toutes sortes d'animaux spécialisés dans les arbres sénescents. La gestion forestière consiste plutôt à choisir les arbres que nous destinons à une longue vie pour atteindre leur maturité et d'aménager leur environnement au mieux pour pouvoir atteindre cet objectif. Mmh. Et donc, on va leur enlever, par exemple, des concurrents qui le menacent. On va sélectionner les arbres à maintenir, voire sélectionner les arbres à enlever.
Mmh. Voilà. Jean ?
Oui. Oui, je suis parfaitement d'accord là-dessus, mais je vous dis encore, ce que je regrette, c'est qu'on défigure un petit peu une ville, parce que dans une ville, il faut être extrêmement prudent. Et je trouve que Guéret, par rapport à d'autres villes, n'est pas assez ombragé. Et on ne plante pas, on a planté 11 et on en a enlevé 50. Par exemple, à Courtille, je reviens toujours là. De même, il y avait un parking ombragé d'une quinzaine de voitures qui jouxtait l'étang. Et on a trouvé le moyen de couper les érables à 1,50 m, ce qui fait qu'il reste des troncs. On se demande pourquoi, il y a beaucoup de personnes qui se posent la question.
Christian, vous souhaitez réagir à l'intervention de Jean ?
Oui, mais là on est quand même dans la gestion de parcs ou de forêts périurbaines. C'est pas du tout la gestion forestière. Et puis moi qui gère maintenant tout ce qui est itinéraire de randonnée, etc. On a des chemins creux, comme on les appelle, hein, des chemins de qualité, voire entièrement pavés avec des murets. Et avec cet abandon justement de l'homme pendant des décennies, on se retrouve avec des arbres magnifiques qu'on poussait dans les murets. Et puis à la tempête, on s'est aussi beaucoup rendu compte que ces beaux arbres, il y en a beaucoup qui étaient tombés en emmenant la moitié de la chaussée. Donc, dans un parc paysager, il faut quand même se méfier. Il y a la sécurité, comme vous avez dit. Vaut mieux renouveler les arbres, parce qu'ils finiront par faire quelque chose. De toute façon, on va replanter des jeunes arbres, mais au moins qui auront moins de problèmes phytosanitaires, quoi. Donc, moins de risques pour les usagers.
Jean, merci beaucoup pour votre intervention. Vous aussi, vous souhaitez poser votre question, apporter votre commentaire sur la gestion des arbres de la forêt aujourd'hui. Vous n'hésitez pas. Vous connaissez le numéro, c'est celui-ci.
France Bleu Creuse, le dossier du jour, 05 55 52 37 38.
Ils pourront bien essayer de nous monter l'un contre l'autre, à contre-sens pour qu'on se vautre. Ils pourront nous raconter qu'on a eu tort, qu'on s'est trompé. Ils pourront pointer du doigt, pointer l'amour coupable de quoi. Viens, on s'aime. Viens, on s'aime.
S'aime Slimane.
France Bleu Creuse, le dossier du jour.
Consacré à la gestion qui est pratiquée aujourd'hui des arbres de nos forêts et autres, nous en parlons avec nos deux invités, Hans Kressler, technicien civicole indépendant, Christian Libaud de Guide Nature, qui s'est beaucoup préoccupé aussi de ces forêts, qui le fait encore. Il vous reste du temps si vous souhaitez apporter votre commentaire, votre point de vue. C'est au 05 55 52 37 38. Trouvez-vous que globalement, les abattages d'arbres sont faits de façon intelligente ou pas? Ou plutôt non, ça vous inquiète? N'hésitez pas à nous apporter votre commentaire. Faire une coupe d'amélioration, Christian Libaud, qu'est-ce que ça veut dire finalement? Qu'est-ce que c'est une coupe d'amélioration?
Hans en parlera mieux que moi, parce que c'est quand même vraiment un spécialiste à ce niveau-là. Mais dans l'idée, c'est le contraire de la sylviculture industrielle. C'est faire de la futaie jardinée, on appelle ça, hein, tout simplement, où on va travailler à long terme sur différentes essences, et surtout des essences mélangées, et non pas, je vous ai dit tout à l'heure, sylviculture champ de maïs, où voilà, on a la même essence, avec tous les problèmes phytosanitaires que ça peut amener, justement. Quand il y a une épidémie, eh bien, tout y passe. Alors qu'en futaie mélangée, l'épidémie n'attaquera pas les mêmes arbres.
On se des précisions sur ce qu'est une coupe d'amélioration. Comment vous travaillez-vous finalement ?
Une coupe d'amélioration essaie, comme le mot l'indique bien, d'améliorer. Améliorer quoi ? Améliorer la production de valeur d'une parcelle.
Oui.
En gros, c'est ça. Et. Futée jardinée, futée irrégulière. Ça serait peut-être pour les forêts que nous avons en Limousin mieux adaptées. Futée irrégulière, en fait, ça distingue d'une exploitation industrielle par l'objectif qui ne consiste pas à viser la coupe rase. C'est-à-dire, on arrivera dans des futées gérées de cette façon, jamais à la coupe rase. On ne coupera jamais tous les arbres au même moment. On essaye de régénérer la forêt en continu, en général par régénération naturelle. Ça n'empêche pas de planter ici et là un arbre ou deux, ou même 50. Mais l'objectif, c'est d'amener quelques arbres qui ont des qualités particulières, de les amener à leur maturité maximale. Et de les amener à leur maturité maximale entourés, gainés par d'autres arbres. Et de cette façon-là, la valeur des bois vendus sera bien supérieure.
Alors, des appels nous parviennent ici à France Bleu Creuse. Tout d'abord, nous allons accueillir Gérard. Bonjour.
Oui, bonjour.
Nous vous écoutons, Gérard.
Eh bien, écoutez, moi, la petite chose que je remarque, c'est que lorsqu'il y a des abattages d'arbres et lorsqu'ils les coupent en dimension pour les mettre sur les greniers, il y arrive souvent que les arbres sont en bordure de route, voire pas balisés ou mal balisés, et surtout, lorsqu'ils ont fait une ou deux semis et qu'il reste un tiers de semis ou un quart ou même très peu, ben, le reste, il reste là pendant des mois. Et je trouve ça inadmissible, parce que s'il n'y avait pas besoin de couper autant, ils n'auraient pas besoin de les couper, quoi.
Pourquoi ils ne les récupèrent pas, Hans ?
Quand on fait une coupe, que ce soit une coupe sélective, une coupe d'amélioration ou une coupe rase, les bois ne sont pas tous destinés à la même usine, à la même scierie ou à la même papeterie. Ils sont triés par catégorie. Et les différentes catégories sont dispatchées dans les différentes transformations. Il est vrai que l'organisation du transport n'est pas toujours simple.
Ce qui veut dire que ces arbres ou ces morceaux de tronc non récupérés, ils vont rester là.
Ça arrive qu'il en reste définitivement. Mmh. En règle générale, on attend parce que ça représente une valeur qui est là au bord de la route.
On dirait pas, c'est vrai, Gérard.
C'est vrai que on le dit souvent aux exploitants forestiers, c'est-à-dire ceux qui achètent les bois, les marchands de bois, que c'est une très mauvaise publicité qu'ils font de laisser des bois bord de route. Parce que les bois qui restent bord de route indiqueraient à la population qu'en fait, ça n'a pas de valeur. Mmh. Ça, c'est une erreur.
C'est une erreur.
Évidente.
D'accord.
Mais en gros, la plupart des bois voyagent quand même sur des camions pour arriver aux différentes destinations.
Oui. Voilà la réponse,
C'est quand même triste, parce que certains bois, vous le dites vous-même, que ça reste en bordure de route. Là vous faites la 941A, et vous verrez, c'est là depuis quelques mois, et puis je sais que ça restera sûrement là, et il n'y a aucun panneau de balisage. Donc quand les routes étaient enneigées et tout, une voiture dérapait, il y avait le mur de bois, voilà ce qui restait. Je trouve pas ça correct.
Gérard, merci beaucoup de votre appel et de vos commentaires. Bonne journée à vous Gérard, à bientôt. Tout de suite nous allons accueillir Thérèse, bonjour.
Oui, bonjour à tous.
Nous
contente
vous écoutons.
De vous retrouver à propos des forêts d'ailleurs. Voilà. Allô ?
Oui, nous vous écoutons, Thérèse.
Bon, c'est une question assez précise. En ce qui concerne les coupes par les privés, beaucoup font des coupes rases au lieu de sélectionner des arbres d'avenir. Et ensuite, j'aimerais savoir quelle est la surface obligatoire pour replantation.
Alors, lorsqu'il y a eu une coupe rase, Hans, est-ce qu'il y a une obligation de replanter? Et si oui, sur quel minimum de surface?
Oui, oui. La loi, elle est assez précise. C'est-à-dire, il faut reboiser. Il faut assurer le reboisement d'une parcelle qui a été coupée à partir d'un hectare. C'est une obligation. Malheureusement peu de contrôle d'un côté. Et de l'autre côté, il y a aussi un phénomène. Quand on coupe une parcelle feuillue, elle va repousser. Elle va repousser sur les souches.
D'accord.
Ça produira des bois taillis. Le nom taillis indique justement ça, une forêt constituée d'une forêt sur souche. Mais par contre, le taillis a une moindre qualité à l'affûter. Mm-hmm. Et donc, c'est pas ça le bon reboisement, de dégrader la qualité des bois produits.
D'accord. Voilà, Thérèse.
Oui, je croyais que c'était 4 hectares d'ailleurs.
Oui, il y a une obligation de remettre en bois.
Oui.
En principe, toutes les coupes rases devraient être reboisées parce que c'est leur nature.
Oui,
à partir de 4 hectares, il y a une demande d'autorisation obligatoire.
Ah, voilà.
Voilà, c'est ça.
Donc ça, cette surface, je la trouve trop grande. Et ça se décide au niveau départemental. Ça serait bien qu'en Creuse, on ramène ces 4 hectares à 1 hectare, justement.
Ou non, c'est une question de législation nationale.
Ah, c'est national.
Voilà, les 4 hectares, c'est une loi. Je suis d'accord avec vous, madame, ça serait pas une mauvaise chose de reboiser. Le mieux, ça serait encore de ne pas couper 4 hectares d'un coup.
Thérèse, nous allons vous souhaiter une très belle journée. Merci à vous également de votre intervention. Il vous reste encore du temps. Questions ou commentaires, 05 55 52 37 38.
Le dossier du jour, avec Granit et Marbre Mourier. Plan de cuisine et salle de bain. Fabricant depuis 1860. Exposition à la Souterraine et Limoges. Et sur granit-marbre-mourier.fr.
Maman ?
Oui, mon chéri ?
C'est bientôt Pâques, alors j'ai caché des œufs pour toi.
Où ça ?
Dans un poème.
Allez, vas-y, je t'écoute.
Pâques me rend heureux. Partout, je vois des petits œufs. Léonidas, si généreux, tu en veux ?
Ah oui, j'en veux.
Léonidas fait des heureux. À l'achat de 500 grammes de petits œufs de Pâques entre le 26 février et le 4 mars, vous recevez un sachet de 250 grammes. Gratuit. Léonidas. Plaisir partagé. Conditions dans votre boutique Léonidas. Pour votre santé, bougez plus.
Bonjour Stéphane. Alors comme ça, vous voulez une véranda à Akena ?
Oui, c'est pour une de mes très chères amies. Elle la souhaite personnalisée.
Ça tombe bien Stéphane. Chez Akena, c'est du sur-mesure.
Formidable. Dans ce cas, sachez qu'elle souhaite une véranda Akena tout en longueur, avec beaucoup de miroirs et des bronzes, et éblouissante comme la galerie des glaces. Vous voyez ?
Oui. Alors par contre, je vous préviens, on ne fait pas les chandeliers.
Akena, la reine des vérandas.
Mes sinusites à répétition. Depuis ma cure thermale à Gréoux, j'ai repris la plongée.
À Gréoux-les-Bains, en Haute-Provence, nous avons 18 jours pour soigner vos affections respiratoires, soulager vos douleurs et réduire vos médicaments. 9 mois après leur cure, 69% des curistes interrogés ont amélioré leurs symptômes et leur santé. Chaîne thermale du soleil agit naturellement pour votre santé.
Interrogez votre médecin et appelez au 0800 32 32 32 0800 32 32 32 ou chaînethermale.fr.
France Bleu Creuse. France Bleu.
Still.
Sané Bonéem.
France Bleu Creuse, le dossier du jour.
Consacré à la gestion des forêts, l'utilisation du bois et la priorité à vos appels. Bonjour Jacqueline.
Bonjour madame.
Nous vous écoutons Jacqueline, nos invités Hans Kressler, technicien civicole indépendant et accompagné de Christian Libaud de Guide Nature. Nous vous écoutons.
Oui, bonjour monsieur. J'aurais voulu savoir pourquoi les bois ne sont pas nettoyés après l'abattage des gros arbres. Tout ce qui est brindis, petits bois qui ne les intéresse pas, ça reste sur les terrains. On voit quand on traverse les forêts de Creuse ou de Châteauroux, et c'est vraiment lamentable de voir les bois dans cet état-là.
Hans, une réponse à Jacqueline ?
Oui, je ne partage pas vraiment l'avis de Jacqueline. Les petites branches, les brindilles et tout ça tombent au sol et sont très importants, sont une alimentation de la litière. Et la litière, c'est là où le recyclage se pratique, le recyclage de tous les déchets de vie de l'arbre pour les réintégrer dans le sol. Effectivement, quand on fait des vastes coupes rases, le sol est dans un état est très malmené. Il y a des brindilles, des bouts de bois, des noisetiers, tout écrasé, cassé par terre, et c'est pas très joli. Je suis d'accord. Il aurait mieux valu ne pas faire de coupe rase, mais il vaut encore mieux laisser le bois qui reste sur la coupe que de vouloir tout nettoyer. Tout nettoyer, c'est très dangereux parce qu'on enlève tout ce qui est le levain, en quelque sorte, de la forêt. Mmh. C'est-à-dire, la forêt aura beaucoup plus de mal à se reconstituer une fois qu'on aura tout nettoyé. Le nettoyage des parcelles fait référence à, je ne sais pas, à une idée de l'ordre, de mettre tout bien propre.
Oui, c'est la forêt urbaine.
Non, ce n'est pas comme ça que je
c'est
vois
pas
la forêt.
Une bonne idée.
On peut sans peine exporter de la forêt des troncs. Il faut se méfier d'exporter autre chose de la forêt. Toutes les branches, les feuilles, la litière et tout ça, c'est une nourriture indispensable pour la biodiversité forestière, qui est le garant de la de l'élasticité de l'écosystème. C'est-à-dire, il peut encaisser des coups quand il a une forte biodiversité.
Voilà la réponse, Jacqueline.
Oui, mais c'est bien triste parce que c'est vraiment vilain quand on voit toutes ces grosses branches qui restent sur le tas et puis que la nature reprend, ça pousse à travers, ça fait vraiment vilain.
C'est ce qui lui permet de reprendre à la nature, justement.
Ça, parce que, bon, quand vous
traversez les
que vous avez au moins enlevé les plus gros, parce que bon, je comprends bien que les brindilles et les petites branches, ça puisse servir, mais quand on a quand même des arbres qui sont encore restés sur le terrain, c'est moche, quoi.
Merci à vous, Jacqueline, également de nous avoir apporté vos points de vue, les points de vue qui sont divers et variés depuis ce matin 9h. Pour ce matin, un tout dernier appel. Bonjour Nicole.
Oui, bonjour. Je rejoins presque un petit peu cette dame en disant que moi, ce qui me désole, c'est que quand pour aller faire des coupes de bois, ces gros engins qui passent et qui nous abîment le peu de chemin que l'on a encore pour pouvoir aller se promener quand il fait beau. Parce que sincèrement, là, c'est incroyable comment tout est abîmé.
Christian, une réponse à Nicole. Effectivement, il y a des fois, on se demande ce qui prime. Est-ce que c'est la nature ou le poids économique ?
Eh bien, les deux.
Oui, les deux, ouais.
Je bagarre. C'est vrai, en plus, moi, je fais l'entretien des itinéraires de rando sur l'Ouest Creuse, etc. Ces vieux chemins creux, c'est des chemins publics. J'ai failli me faire taper dessus, des fois, parce que tu utilises un chemin public qui n'est pas adapté. parce que ça, c'est dans la loi, dans le code rural aussi.
Oui.
Un chemin public n'est pas adapté. Il était adapté à une charrette, alors c'est ce qu'on préfère pour la rando, évidemment. Mais c'est le chemin public et l'exploitant hésite à passer à côté de ce chemin public, même si en principe, on ne devrait pas voir planter d'arbres à moins de 4 mètres de l'emprise du chemin. Donc ça permet de passer à côté. J'ai remonté des murets des fois sur des chemins, et puis arrive une exploitation et voilà. L'engin met tout à plat pour pouvoir passer parce qu'il est trop large. Il y a eu la fameuse loi Olin qui avait été faite par les randonneurs, hein, mais ça existait déjà dans le code rural, et une commune a la possibilité d'interdire, ce qui s'est fait d'ailleurs sur Saint-Gousseau, là, ces dernières années, d'interdire des chemins ruraux à des engins non adaptés.
Voilà.
Par contre, ça demande une organisation forestière, ouais, et ces grandes pistes forestières organisées.
On a vraiment le sentiment qu'il y a plein de choses qui ont du mal à cohabiter, hein, au niveau de cette forêt. Merci beaucoup, Nicole, à vous également de vos appels. Un sujet sur lequel on aura l'occasion de revenir, parce que beaucoup de commentaires. Hans, en deux mots, les réactions des appels que nous avons eus ce matin. Qu'est-ce que vous en pensez?
Je trouve que c'est très intéressant. Il est très important de communiquer les uns avec les autres et d'essayer de comprendre les uns des autres. Ce qui m'importe beaucoup, quand même, c'est de produire des forêts qui sont belles, les forêts qui invitent à se promener, et qui ont une grande diversité, et qui reste en permanence sous forme de forêt. Et je vous garantis que ça peut être tout à fait rentable aussi pour le propriétaire.
Nous aurons l'occasion, messieurs, de revenir sur le sujet. Merci beaucoup de votre visite.
Le dossier du jour, avec Granit et Marbre Mourier, tout pour le cimetière. Fabricant depuis 1860, exposition à la Souterraine et Limoges et sur granit-marbre-mourier.fr.
Demain matin, un sujet que nous n'avons encore jamais abordé, mais il faut bien en parler. Demain, nous nous intéresserons aux punaises de lit qui aiment beaucoup le confort de nos chambres et de nos literies. Les punaises de lit, demain matin, à partir de 9h. Allez, regardez bien ce qui se passe sous les matelas et sous les oreillers d'ici là.
France Bleu Creuse, le dossier du jour, à retrouver sur francebleu.fr.